Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Appelez-nous, exprimez-vous. Dans 30 minutes, nous parlerons de la Guinée et de la médiation religieuse qui est en cours entre l'opposition et le pouvoir. Une médiation, évidemment, pour sortir de l'impasse, d'autant que cela fait maintenant des mois que l'opposition revendique notamment l'arrêt des harcèlements judiciaires contre les leaders politiques et les acteurs de la société civile, la restauration des libertés de manifester ou encore l'ouverture d'un dialogue politique inclusif sous les de la CDAO, la communauté ouest-africaine. En tout cas, pour donner une chance à cette médiation qui est menée donc par les leaders catholiques, chrétiens et musulmans, l'opposition a reporté pour la troisième fois en trois semaines une manifestation contre la junte. Comment sortir de l'impasse? Quelles sont vos attentes? Vous vous exprimez ce matin sur RFI. Continuez à nous rejoindre. 33 9 693 693 70. Et toute l'équipe vous attend évidemment sur nos réseaux sociaux. J'ai déjà sous les yeux un certain nombre de commentaires postés, notamment sur le compte WhatsApp de l'émission. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction. Et on va revenir sur la visite du président chinois à Moscou. Bonjour Satigui.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Merci Juan. Juan, Xi Jinping était à Moscou pour une visite de trois jours. Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'avec cette visite, la Chine pourrait-elle jouer un rôle plus important dans le conflit en Ukraine?
Oui, d'autant que la visite de Xi Jinping intervient alors que la Chine veut s'afficher en médiateur de la guerre en Ukraine. Bonjour Anissa El Jabri.
Bonjour.
Correspondante permanente de RFI à Moscou, le président chinois a quitté la Russie ce matin après un voyage donc de deux jours. Est-ce que cette visite a permis à la Chine de jouer un rôle plus important dans le conflit en Ukraine ?
Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'interlocuteurs qui peuvent parler à Vladimir Poutine. En Russie, on aimait ironiser dans les médias d'État, par exemple, sur le nombre de coups de fil passés par Emmanuel Macron. On sait que ce n'est plus le cas. À Moscou, d'ailleurs, l'activité diplomatique des Occidentaux, d'une manière générale, est très réduite. Et de toute façon, avec les expulsions croisées de diplomates, il ne reste plus grand monde dans les ambassades occidentales. Alors, il y avait bien la Turquie, c'est même d'ailleurs pour l'instant le seul acteur dans ce dossier à avoir obtenu des résultats concrets en termes de médias. Il y avait cet échange de prisonniers très symbolique, celui avec les prisonniers d'Azovstal. Certains d'entre eux vivent même. C'est une exigence russe sur le territoire turc aujourd'hui, parce que pour la Russie, il n'était pas question de voir leur retour en héros en Ukraine. Et puis, il y a surtout cet accord sur les céréales. On en parle beaucoup sur cette antenne. Mais voilà, la Turquie aujourd'hui, elle est aux prises par l'élection présidentielle du 14 mai et surtout par les conséquences de ce terrible tremblement de terre historique. Enfin, je vous le disais, c'est déjà compliqué avec les Occidentaux, mais depuis le mandat d'arrêt de la CPI, eh bien, les choses sont encore plus difficiles. C'est une question qui se pose. Comment on parle à un dirigeant visé par un mandat d'arrêt? C'est une question qui se pose aussi pour certains pays des BRICS, et ce sont normalement des interlocuteurs que Moscou aime à mettre en avant. L'Afrique du Sud, par exemple, elle accueille au mois d'août un sommet des BRICS. La question qui se pose, Vladimir Poutine, pourra-t-il s'y rendre? Il y a les BRICS, il y a aussi le Brésil. Vous savez que, par exemple, Lula refuse de condamner la présence de soldats russes en Ukraine, mais que peut-il faire aujourd'hui?
Oui, à vous entendre, Anissa El Jabri, on a comme l'impression que la Chine est finalement à peu près seule sur ce terrain de la médiation.
On parle parfois, Juan, c'est vrai, un petit peu des Émirats arabes unis, d'autant qu'ils accueillent très discrètement sur leur sol beaucoup de Russes, mais c'est vrai, la Chine est l'acteur de poids le plus important pour l'instant. Elle souhaite surtout jouer un rôle diplomatique plus important sur la scène internationale, vous le disiez. Et d'ailleurs, avant l'arrivée de Xi Jinping sur le sol russe, tout le monde rappelait ce qui a été perçu comme une réussite diplomatique rare, le rapprochement entre les grands rivaux Iran, Arabie Saoudite, c'est l'œuvre de la Chine. Alors là où le bas blesse en quelque sorte, bien c'est que la Chine se présente comme un médiateur neutre. Et vous l'aurez compris, c'est trois jours en réalité. Trois jours de visite d'État ont été trois jours de célébration d'une relation spéciale entre Moscou et Pékin, une entreprise de légitimation de Vladimir Poutine. Et puis, pour un acteur neutre, vous savez aussi que certains pays, les États-Unis, surtout soupçonnent Pékin de livrer des armes à la Russie. même si Pékin nie vigoureusement. L'autre sujet, c'est le fameux plan de paix chinois. Vous savez que ces termes sont très vagues et puis qu'il a été reçu de manière très mitigée à Moscou. Alors c'est vrai qu'officiellement tout va très bien, on dit avoir beaucoup de respect pour ses propositions. Vladimir Poutine disait que beaucoup de points lui convenaient, mais en réalité, quand on en parle, et je l'ai fait à des experts diplomatiques proches du Kremlin, la ligne est assez claire. L'un d'eux me disait lundi soir, je pense qu'à Pékin, on comprend très bien que les chances d'un règlement politique rapide sont proches de zéro, qu'il sera même très difficile de parvenir à un cessez-le-feu. Il y a un contexte aussi, même si on a entendu Volodymyr Zelensky se dire ouvert à un échange téléphonique avec le président chinois et qu'ici à Moscou on dit qu'il aura lieu. Le contexte, c'est qu'aujourd'hui chacun des deux pays pense avoir sur le terrain militaire quelque chose à gagner, et tant que chacun d'eux considérera que c'est par les armes qu'il obtiendra des gains, il sera encore très difficile de faire avancer tous ces sujets.
Satigui, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, Juan, merci à vous et bonne journée.
Et un grand merci surtout à Anissa El-Jabri, correspondante permanente de RFI à Moscou. Bonne journée à tous les deux, 9h17 à Paris. On repasse au standard avec d'autres questions et sur un sujet qui suscite à chaque fois énormément de réactions au standard et sur nos réseaux sociaux. Cet accord très controversé conclu il y a près d'un an entre le Royaume-Uni et le Rwanda visant à expulser vers Kigali les demandeurs d'asile arrivés illégalement sur le territoire britannique. Bonjour Madiba.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Soyez le bienvenu, vous êtes à Conakry.
Oui, bien sûr, je suis à Conakry.
On vous écoute. Hein.
La ministre britannique de l'Intérieur, lors de sa visite, a réaffirmé son attachement de l'accord expulsant les migrants de la Grande-Bretagne vers le Rwanda. Y a-t-il encore une possibilité pour que cet accord n'aboutisse pas? Et la deuxième question, quelles seront les personnes concernées et à combien sont-elles estimées?
Alors, c'est vrai que malgré les critiques que suscite cet accord, le gouvernement britannique reste déterminé à appliquer sa nouvelle loi migratoire. Bonjour Charlotte Boitiot. Soyez la bienvenue Charlotte Boitiot, rédactrice en chef adjointe d'Info Migrants, site d'information destiné aux migrants dont France Média Monde est partenaire. Je le disais en préambule, cet accord migratoire est condamné, dénoncé par de nombreuses organisations de défense des droits humains, condamnées également par les Nations Unies. Y a-t-il encore une possibilité pour qu'il n'aboutisse pas ?
Oui, bonjour Madiba. C'est un peu toute la question. Hein. On sait que pour l'heure, il n'y a eu aucune expulsion de ces demandeurs d'asile vers Kigali. Et tout ça parce que en fait, cet accord fait l'objet actuellement de contestations judiciaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais un premier vol avait été prévu en juin 2022 et puis il avait été annulé in extremis.
Oui, dernière minute.
Voilà, après une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Puis ensuite, nouveau rebondissement, puisque quelques mois plus tard, en décembre 2022, la Haute Cour de Londres avait finalement donné son feu vert. Elle avait jugé, elle, que cet accord était légal. Et puis en janvier 2023, nouveau revers pour le gouvernement, puisque la justice britannique a finalement décidé de réexaminer le texte en appel. Quand il y a un réexamen en appel, cela veut dire qu'il y a un gel de toute possibilité d'expulsion.
En tout cas, lors de sa visite à Kigali le week-end dernier, la ministre britannique était plutôt optimiste. Hein. Elle a assuré que les premiers vols auront lieu en juin. Madi nous demander quelles étaient les personnes qui seraient concernées par cet accord.
Oui, alors là, le point est très clair dans l'accord qui a été signé entre les deux pays. Ces expulsions concernent tous les migrants qui seraient arrivés illégalement au Royaume-Uni après le 1er janvier 2022. Et ces personnes qui sont arrivées illégalement sont des personnes qui soit sont arrivées via la Manche sur des petites embarcations, soit cachées dans des camions depuis la France via l'Eurotunnel. Ce qu'on sait aussi, c'est que cet accord vise les hommes jeunes et en bonne santé. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'ancienne ministre de l'Intérieur, Priti Patel, qui avait beaucoup défendu aussi ce projet. Elle avait assumé, ciblé cette population de jeunes hommes. Je la cite, pour rappel, elle avait dit que 70% des personnes qui étaient entrées illégalement au Royaume-Uni via la Manche étaient des hommes célibataires et qu'ils étaient en fait des migrants économiques et pas de véritables demandeurs d'asile. Donc c'était très clair dans sa bouche. Il y a enfin un dernier doute qui persiste pour les autres profils de demandeurs d'asile. Je pense aux personnes qu'on appelle les publics vulnérables, les femmes enceintes, les mineurs, les personnes handicapées. On ne sait toujours pas si eux seront concernés par cet accord d'expulsion.
Et difficile, j'imagine, de répondre à la dernière question de Madiba. combien de personnes seraient concernées par cet accord si toutefois le gouvernement britannique passe véritablement à l'acte?
Oui, ben en effet, il y a aucun chiffre n'a été évoqué entre Londres et Kigali. Tout ce qu'on sait, c'est que plus de 45 000 personnes, c'est un record, sont arrivées sur le sol britannique en 2022. Donc on se dit que potentiellement, sur ces 45 000 personnes, des dizaines de milliers pourraient être concernées par ces expulsions.
En deux mots, Charlotte Boitiot, on comprend bien l'objectif des Britanniques, l'objectif en tout cas officiel, c'est de dissuader tous ceux qui seraient tentés d'arriver clandestinement au Royaume-Uni. Que gagne le Rwanda en acceptant la politique migratoire britannique ?
Eh bien, elle a évidemment un intérêt pécuniaire dans cet accord, puisque Londres s'est engagée à donner une enveloppe de 144 millions d'euros à Kigali pour financer tout ce dispositif.
Madiba, je pense qu'on a été complet. A-t-on répondu à vos questions?
Oui, monsieur Wan.
Bonne journée alors.
Ok, merci à vous et bonne journée.
Bonne journée à Conakry. Merci Charlotte Boitiot, rédactrice en chef adjointe du site Info Migrant. On va parler football maintenant. Je suis ravi d'avoir en ligne ce matin Antoine Grenier du service des sports de RFI. Bonjour Antoine.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
On s'est permis de vous appeler puisque vous suivez de près l'équipe de France et on a justement des questions sur le nouveau capitaine des Bleus. Bonjour Armand.
Bonjour Juan, bonjour à Antoine Grenier et à toi les auditeurs des RFI.
Soyez le bienvenu et merci de nous appeler du Gabon. Vos questions?
Ok Juan, merci. Alors, Kylian Mbappé a été nommé capitaine de l'équipe de France par Didier Deschamps. Alors, je voudrais savoir pourquoi Antoine Griezmann n'a-t-il pas été préféré alors qu'on le sait très bien, il totalise quand même plus d'expérience en équipe de France.
Ah, plus d'expérience, c'est sûr. Hein. 117 sélections, 42 buts pour Antoine Griezmann. 66 sélections, 36 buts pour Kylian Mbappé. Antoine Rognier, expliquez-nous le choix de Didier Deschamps.
Le choix de Didier Deschamps, il l'a exprimé lui-même devant nos confrères de TF1 hier en disant que Kylian coche toutes les cases dans ce discours. Didier Deschamps, il explique que Kylian Mbappé avait une longueur d'avance sur Antoine Griezmann, qui lui, visiblement, ne cochait pas toutes les cases. C'est une question d'âge, c'est une question de performance et puis une question de médiatisation aussi un petit peu, on va pas se le cacher, Kylian Mbappé il est au centre de toutes les attentions en permanence. Question d'époque peut-être aussi parce que Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane, Karim Benzema sont partis à la retraite internationale, donc le poids des trentenaires dans le groupe des Bleus il a drastiquement diminué, la balance elle penche largement en faveur de la jeune génération, celle qui n'a pas gagné la Coupe du Monde 2018, si mes calculs sont bons. Ils sont que 5 dans la liste de Didier Deschamps à avoir vécu ce dernier sacre de l'équipe de France. Le plus jeune de ces champions du monde 2018, celui qui peut assurer la passerelle entre les générations, c'est Kylian Mbappé.
Oui. Donc il incarne la nouvelle génération, il incarne le présent et le futur donc de l'équipe de France.
Exactement, il a 24 ans, c'est très jeune pour prendre le brassard de capitaine de l'équipe de France, c'est un leader et la moyenne d'âge de cette équipe de France actuellement, elle est de 25 ans, donc pour avoir un joueur qui parle à cette nouvelle génération qui est représentée par les frères Thuram, Marcus et Kefren, qui sont d'ailleurs très proches de Kylian Mbappé, ou Eduardo Camavinga qui a tout juste 20 ans, il valait mieux quelqu'un comme Kylian Mbappé, d'autant plus que, faut le préciser, Antoine Griezmann c'est pas vraiment un leader dans l'âme, c'est un leader technique, c'est un leader d'exemple sur le terrain, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour un groupe qui est capable de jouer un poste qui n'était pas le sien comme il l'avait fait pendant la dernière Coupe du Monde et ça avait très bien marché, mais c'est pas quelqu'un qui va s'exprimer dans les vestiaires. Dans la vie de groupe, c'est pas lui qui s'exprime, donc il a d'ailleurs jamais été capitaine dans les clubs où il est passé, notamment l'Atlético où il a quand même joué la majeure partie de sa carrière, il n'a pas été capitaine, donc Kylian Mbappé, lui, commence à être un petit peu capitaine au Paris Saint-Germain, et ça a pesé dans le choix de Didier Deschamps.
Et on a vu que Mbappé s'était imposé comme un leader, on a notamment encore en mémoire ses propos pendant la Coupe du Monde, dans le vestiaire, sur le terrain également, ses prises de position récemment sur Noël Le Graët. Antoine Grenier, rapidement, une dernière question d'Armand.
Ok Antoine, mais malgré tout, est-ce qu'on peut craindre des tensions au sein de l'équipe à quelques jours des matchs comptant pour l'Euro 2024?
Des tensions entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, c'est ça?
Non, c'est pas ce que laisse entendre la soirée d'hier. Hein, il a fêté son anniversaire avec le groupe Antoine Griezmann et il a dit que c'était un honneur d'être en équipe de France. C'est un grand professionnel, donc il n'y aura pas de tension. Après, la question maintenant pour le nouveau capitaine qu'est Kylian Mbappé, c'est de gérer les équilibres au sein du vestiaire, parce que il y a des groupes, des anciens et des plus jeunes. Il va falloir éviter cette fracture-là. Griezmann, il est très ami avec Olivier Giroud, Benjamin Pavard et les frères Hernandez. Kylian Mbappé, lui, je le disais, il est plus amis avec les frères Thuram et les jeunes. Il va falloir fédérer ce groupe autour de lui, pas forcément être ami avec tout le monde, mais il faut au moins qu'il réussisse à transmettre sa rage de victoire aux Bleus, et ça sera déjà très bien.
Et on précise, Antoine Vrenier, que Antoine Griezmann a quand même été promu, puisqu'il devient vice-capitaine des Bleus.
Oui, il a toujours fait partie plus ou moins du conseil des sages, entre guillemets, des cadres qui s'exprimaient auprès du sélectionneur. Donc pour lui, ça ne fait pas un gros changement de ce point de vue-là.
Merci Antoine Grenier d'avoir été avec nous, journaliste au service des sports de RFI. Armand, je vous souhaite une bonne journée à Libreville et merci infiniment de nous avoir appelés. Dernière question pour ce matin, Souradjou, bonjour.
Bonjour Juan.
À Parakou.
Bonjour à tous. Oui, ça va très bien à Parakou.
À Parakou, au Bénin. Vous avez des questions sur Donald Trump, l'ancien président américain?
Oui, je reviens encore une fois sur ses démêlés avec la justice de son pays.
Oui.
Quand on sait qu'il est sous la menace d'une possible inculpation dans l'affaire Stormy Daniels. Alors, en réaction, M. Trump a appelé ses partisans à manifester le 21 mars.
Hier, oui.
C'est à ce sujet que j'ai deux petites questions.
Allez-y.
Comment expliquer la faible mobilisation de ses partisans après son appel à manifester?
C'est vrai que samedi dernier, sur son réseau social, Donald Trump avait appelé ses militants à manifester. Visiblement, ces appels ont fait chou blanc. Bonjour Jean-Éric Brana.
Bonjour.
Maître de conférence à l'Université Paris 2, Panthéon Assas, spécialiste des États-Unis. Donald Trump ne parvient plus à mobiliser ses partisans?
Alors, c'est plus compliqué que ça. D'abord, il faut penser que pour aller dans la rue, il faut avoir une bonne raison. Et cette fois-ci, ce n'est pas comme le 6 janvier 2020 où Donald Trump avait titillé ses supporters pendant deux mois de messages ininterrompus, plusieurs fois par jour. Et après une campagne qui avait été très compliquée, qui avait été perdue, où on disait qu'il y avait eu des fraudes et donc elle avait été volée. Donc la colère était excessivement forte de la part de ses partisans. Mais depuis, il y en a eu 919 qui ont été poursuivis, 351 condamnés et 192 emprisonnés. Ça refroidit quand même pas mal.
Surtout j'écoutais ce matin notre correspondant, l'un de nos correspondants aux États-Unis, visiblement hier, devant sa résidence de Floride, il n'y avait que quelques dizaines de sympathisants pour le soutenir.
Oui, et ce que j'allais rajouter, c'est que depuis le 6 janvier 2020, la cote de popularité de Donald Trump n'a pas tellement bougé, mais sa cote d'amour, oui. Je veux dire par là que ses supporters qui étaient de vrais partisans, on pourrait dire des fans, sont aujourd'hui un peu plus refroidis, se sont reculés et commencent à faire les yeux doux plutôt à Ron DeSantis en pensant qu'il représente la jeunesse et qu'il n'a pas de casserole comme Donald Trump. Or, ce qu'ils veulent, c'est que leurs idées soient représentées avant même que d'élire un homme. Et là, Donald Trump, je crois, a raté un petit peu le coche et la compréhension de ce qui est en train de se passer. Mais je nuance cependant, puisque samedi, il va y avoir un meeting à Waco, au Texas, où il est extrêmement populaire. 56% d'ailleurs des électeurs républicains veulent toujours qu'il se présente dans cet État. Et là, il risque d'y avoir pas mal de monde.
Bon, bah, écoutez, on verra ça donc samedi prochain. On prend rendez-vous. Merci Jean-Éric Brana d'avoir été avec nous, maître de conférence à l'Université Paris 2 Panthéon Assas. Souradjou, bonne journée à Parakou et merci à vous de votre fidélité. Il sera bientôt 8h30 en temps universel. On va retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin et on revient tout de suite après pour notre débat du jour. On va parler de cette médiation qui est en cours en Guinée, médiation religieuse entre opposants et pouvoirs.